Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il n'y a pas énormément d'équipes qui nous a mis réellement en difficulté, mis à part Paris cette année dans le jeu où voilà, on a bu l'eau.
Alors on doit relever la tête de l'eau et avancer.
Même avec tout le respect que j'ai pour Caen, voilà, c'est une équipe qui est après bien sûr qui vole sur l'eau en ce moment.
Paris Saint-Germain, il coule un petit peu sur l'eau pour le moment.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Avec Daniel Riolo et Stéphane Guy, notre invité Franck Bellassène. Parmi les voix qu'on a entendues, tu as travaillé avec certains de ces hommes là ou pas, non?
Antoine Combeur est un très bon ami à moi, je suis amoureux dans ses conférences, dans son attitude.
C'est un autre client effectivement que Michel Azakarian, ça c'est sûr.
Ouais, ils sont très amis les deux.
Oui, tout à fait.
Et pour la petite anecdote, ils étaient en train de jouer au golf ensemble quand Laurent Nicolas a appelé Michel.
Michel Azakarian joue aussi au golf.
Ouais.
Donc il n'y a pas un entraîneur qui ne joue pas au golf en France aujourd'hui, j'ai l'impression. Il y a de moins en moins de journalistes qui ne jouent pas au golf aussi.
Eh, mais non, mais moi non.
Et moi non plus,
je m'y mettrais jamais. Moi non, ça va être le paddle maintenant.
La fleur est infestée par la mode du golf.
C'est la mode, mais.
Ça va être le paddle maintenant.
Ça a déjà commencé. Sport en même temps. Moi, j'en avais un depuis longtemps, j'en ai pas changé.
Est-ce que tu penses du paddle rapidement, Daniel?
M'intéresse pas.
Voilà. Moi, j'adore, je suis fan.
Oui, mais c'est pour ceux qui veulent plus trop bouger. Moi, j'ai besoin de bouger.
Si on peut encore bouger.
Moi, je peux encore bouger.
Les joueuses de Chelsea, de Lyon bougent encore, puisqu'on joue une prolongation en quart de finale retour de Ligue des Champions. Anthony Reich.
Ouais, la prolongation qui vient de démarrer, 91e minute de jeu. C'est parti donc pour 2x15 minutes à Stamford Bridge, grâce à ce but vraiment décisif pour l'instant de Vanessa Gilles, la défenseur canadienne, à la 77e minute. Ça va être chaud jusqu'à la fin de cette prolongation.
Et ça peut faire les pénaux, donc on est d'accord.
Exactement.
J'ai l'impression de voir une excellente Wendy Renard ce soir, Anthony.
Ouais, ouais, très solide Wendy Renard, la capitaine qui a certainement maintenant à nouveau un objectif équipe de France.
Oh, la belle. Oh non, je l'avais vu belle, la frappe.
Elle était bien déclenchée, celle de Lindsey Horan, effectivement, la championne du monde américaine.
Merci, à tout à l'heure, Anthony, pour donc une éventuelle séance de tir au but. Alors, notre sujet, j'accueille d'abord Hamza Rahmani. Bonsoir, Hamza.
Bonsoir, messieurs.
Dans un look très années 80.
Bah écoute, je prends comme un compliment.
Oui, tout à fait. Spécialiste du foot africain à
Rennes. C'est le grand retour. Il n'a pas dû les connaître. Hein.
Non, oui, je pense
c'est,
pas.
C'est le grand retour des 80s.
C'est très 80s, tout à fait. Bon, on peut décrire le style. Veste en jean assez courte. T-shirt court également, près du corps.
Ah non, voilà. époque que je n'ai pas connue, mais que j'aurais bien aimé connaître.
Tu connais très bien le foot africain, en revanche.
Dans,
hein, régulièrement.
Dans les années 90, milieu 90.
Voilà, au mi-temps des années 90. On prend tous un coup de vieux, bien sûr. Notre sujet, comment l'Algérie et le Maroc arrivent à séduire de plus en plus jeunes les binationaux? Hamza, tu vas nous en parler, nous livrer quelques explications. Je rappelle, par exemple, la liste spectaculaire des dernières semaines concernant l'Algérie pour démarrer. Je parle de joueurs nés en France. Bouanani de Nice, 18 ans. Ryan Aït-Nouri de Wolverhampton, 21 ans, qui rejoint l'Algérie. Jawed Adjam de Nantes, 20 ans. Farès Chaibi, également, qui rejoint l'Algérie du SC Bastia, 20 ans. Oussem Aouar, évidemment, 24 ans. On en parlait il y a quelques jours dans l'After. D'ailleurs, selon les infos de nos confrères algériens, Belmadi avance également sur le dossier Amine Gouiri. C'est pas fait.
Mais il est très bien avancé, le dossier.
Mais exactement, il est très bien avancé.
Si je devais parier,
pour Cherki, c'est beaucoup moins avancé, visiblement, même si on a une intention de l'attirer vers la sélection algérienne.
Disons qu'il y a un championnat d'Europe espoir qui se profile pour certains de ces joueurs, notamment Amine Gouiri, et que derrière, potentiellement, il pourrait y avoir un changement.
Bon, Chaibi, c'est Toulouse. Est-ce que autant pour moi, messieurs? Bon, donc, réaction déjà, Gouiri, qui a 23 ans, choisirait l'Algérie peut-être à terme. Est-ce qu'il avait encore un espoir, peut-être, de caresser une sélection?
Je pense qu'il y a un véritable changement aujourd'hui dans les mentalités des joueurs qui peuvent être binationaux. Et c'est un peu logique. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé mon métier, on me demandait d'essayer d'aller en Afrique, de trouver certains joueurs pour les faire venir. Aujourd'hui, en fait, les joueurs qu'on a aujourd'hui dans le championnat de France, et même en équipe de France hein, aujourd'hui, ce sont souvent des enfants de parents qui sont venus de l'immigration. Et donc, c'est notre héritage à nous. Donc, aujourd'hui, les clubs français n'ont quasiment plus besoin d'aller chercher de joueurs en Afrique. Et donc, puisque aujourd'hui, c'est notre héritage, et Dieu sait qu'on a un sacré bel héritage quand on voit notre équipe de France et quand on voit nos équipes nationales de jeunes. Donc, après, il y a peut-être un moment, une certaine volonté de réussir dans l'équipe nationale, peut-être qui appartient à certaines origines. Et je pense que l'émancipation du Maroc aujourd'hui dans les différentes compétitions et on l'a vu encore dans les différents matchs amicaux qu'il y a eu ce week-end, fait que ça donne des idées à certains joueurs de dire, bah, finalement, je vais peut-être aller dans
parce
mon équipe.
On peut gagner avec le Maroc ou avec l'Algérie, comme l'Algérie.
Exactement, exactement aujourd'hui. Donc, ça aussi, ça peut donner certaines idées.
Mais c'est aussi, Hamza, un travail hein, permanent de lobbying, hein, presque, de Jamel Belmadi pour la sélection algérienne.
Ouais, c'est vrai que Belmadi, depuis qu'il est arrivé, il cherche à renforcer cette sélection, notamment par des binationaux. Alors il y a un double discours, parce qu'il y a le discours qui va tenir en public où il dit « moi je n'ai pas à convaincre tel ou tel joueur de venir, ça doit venir de sa part ». Et puis il y a ce qui se passe…
Ça c'est le discours de Walid Regragui.
Et puis il y a ce qui se passe en off, en tout cas pour Jamel Belmadi, et c'est vrai que…
Il a dit, par exemple.
Il l'a dit en conférence de presse il y a quelques jours avant le match face au Niger, Ait Nouri et Oussem Aouar, c'est un travail de 4 ans. 4 ans de discussion… pour finalement les avoir aujourd'hui en sélection algérienne. Et effectivement, tu en parlais tout à l'heure, Daniel, par rapport à Walid Regragui. C'est ce qu'il disait notamment sur le cas Brahim Diaz. Il n'a pas envie de forcer la main. Le joueur, c'est à lui de venir. Je crois qu'il le disait dans l'after, le fait que le joueur doit faire lui-même le premier pas, qui est cette intention sincère, parce que le jour où il faudra jouer une Coupe du Monde, alors ce sera facile pour le joueur de se motiver, mais le jour où il faudra aller jouer un match de qualif au Botswana sous 45 degrés, bah peut-être que la motivation à ce moment-là, elle sera moindre. Donc effectivement, on le voit avec Walid Regragui, c'est en train de se développer. Et puis il y a cette fédération marocaine aussi qui a travaillé depuis de longues années en essayant de prendre des joueurs extrêmement jeunes, un travail de détection très très important.
Dans plusieurs clubs européens.
La fédération algérienne le fait aujourd'hui. Hein. Dans les 2005, dans les 2006, dans les 2004, dans les 2003, la fédération. Moi, j'ai des jeunes joueurs. Ils sont contactés par la fédération algérienne. Et il y en a certains qui ont rejoint la sélection en U20, en U19, pour y aller.
18, en se concentrant sur les talents les plus précoces.
Mais j'ai l'âge de 14 ans. Sincèrement, je trouve ça tout à fait logique, quoi. C'est pas, moi je trouve que c'est vachement bien pour le football africain et puis ça fait avancer aussi le football là-bas, même si au Maroc ils ont quand même une formation qui est plutôt pas mal avec l'académie qu'ils ont créée là-bas. Walid, c'est mon ami puisque j'ai joué avec lui, on se connaît depuis 30 ans, je l'ai vu cet après-midi encore au téléphone. C'est vrai que Walid il force pas les choses. Mais Walid, c'est un exemple, parce qu'il est allé lui aussi au Maroc, alors qu'il était un joueur, pas un top joueur pour aller en équipe de France, mais il a eu l'opportunité d'aller jouer au Maroc.
Alors dans ses choix prématurés en tout cas précoces, plus qu'avant de certains joueurs binationaux, je le disais, né en France, de rejoindre la sélection algérienne par exemple, en parlant avec des confrères algériens, on me dit, mais nous on pense qu'il y a un effet Benzema. Je m'explique, hein, c'est notamment un Scott
loin, parce que moi j'aurais aimé terminer déjà sur les thèmes d'avant, et puis après...
Là tu
vas vite sur les différentes causes, parce que pour moi, ce que vous évoquez depuis le début, et les éléments qui conduisent de plus en plus de jeunes joueurs à choisir le pays d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents, c'est la conjonction de plein de choses différentes. En tout cas, moi, ce que je note aussi bien dans le discours de Belmadi, que ce soit totalement vrai, mais c'est en tout cas en partie vrai, et totalement vrai dans le discours de Walid Regragui, ce qu'ils mettent en avant en premier, et ce que mettent également en premier en avant quand on parle avec des journalistes, ça m'est arrivé récemment de répondre à une interview pour une radio tunisienne, donc j'ai eu ce débat là-bas. Les Algériens sont un peu sur la même longueur d'onde, les Marocains. On met en avant l'attachement. Venez parce que votre cœur vous guide. Je trouve que c'est très bien de le faire comme ça, mais qu'on n'ait pas honte de notre côté aussi, de dire, si tu fais le choix de l'équipe de France, que ce ne soit pas par opportunité. Que tu le fasses parce que tu as réellement envie de porter le maillot bleu et parce que tu te sens...
Qu'on dise la même chose, que le cœur te porte vers le maillot bleu.
C'est ce que je suis en train de te dire, Stéphane. Ça, ouais. Donc, je vois pas pourquoi Algériens, Tunisiens, Marocains...
Il faut pas avoir, honte de faire la démarche.
C'est ce que je suis... C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Eux mettent ça en avant en premier dans leur discours, aussi bien Greg Belmadi, faisons-le également. Si tu optes pour l'équipe de France, il faut que ce soit un choix du cœur et pas de l'opportunité. Longtemps ça l'a été. Et ça, c'est le deuxième point qui fait qu'il y a une évolution dans les mentalités.
Quelle opportunité, par exemple, quand tu choisis la France?
Pas de remporter une Coupe du Monde.
Bah, la carrière.
De briller.
Est valorisée et tout.
Mais on a un des plus célèbres binationaux en équipe de France qui a été champion du monde, hein, qui est David Trezeguet.
Absolument.
C'est le meilleur exemple. Nous aussi, on en a bénéficié.
Et qu'il n'y avait pas grand chose de français quand il fait le choix.
Il est juste
limite, il parlait à peine français.
Il est juste
parlait à peine français.
Rappelez-vous du cas Gonzalo Higuaín. Parce qu'il était né à Brest, on le rappelle. Et Raymond Domenech, à l'époque, voulait le convoquer. Alors qu'il ne parlait pas français, il n'a jamais mis les pieds en France.
Et j'avoue que je comprends quand en Italie, le cas du jeune Argentin qui vient d'arriver pose problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi?
Il ne parle pas italien.
Pourquoi tu te sens italien? Tu ne parles pas italien? Et je sais qu'en Algérie, il y a eu des problèmes là-dessus. Le mec, il ne parle pas arabe, il ne connaît pas l'hymne et tout. Je sais qu'à un moment, c'était plus vers 2010 que ça avait posé problème.
Vous avez vu qu'au Brésil, il y a des problèmes avec la Pologne comme ça aussi.
Oui, mais moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Et on ne doit pas avoir honte de demander à un joueur un attachement au moment de représenter l'équipe nationale.
En fait, le critère sportif, il ne doit pas être déterminant. C'est vrai que là, on est plutôt focalisé sur l'aspect joueur, mais aussi l'aspect fédération. Et le travail
J'allais y venir. Donc, il y a les autres éléments. Il y a le travail de la fédération. Parce que pendant longtemps, il y a des joueurs africains qui rechignaient, et on peut les comprendre. Ils disaient, qu'est-ce que je vais aller faire dans ma sélection africaine? C'est mal organisé, on joue sur des terrains de merde, il n'y a pas l'oseille. Après tout, tu pouvais entendre ces arguments-là, qui fait que de toute façon, il n'y avait pas de vraie carrière internationale à mener. Les choses ont beaucoup évolué. Regardez une CAN pendant des années, c'était bien plus pénible qu'aujourd'hui, c'est devenu un vrai spectacle, le niveau a augmenté, tu nous le dis à chaque fois.
Ouais, mais il y a une contrepartie.
C'est mieux.
Quand tu parles de ces joueurs-là, regarde aujourd'hui le Ghana, par exemple. Le cas qui était très... Enfin, moi, je le vivais très mal, c'est Kevin Prince-Boateng dans les années 2010.
Bien sûr, bien
aujourd'hui,
bien
on a un nouveau cas.
Bien sûr.
Moi, ça m'a fait mal de le voir en sélection ghanéenne à la dernière Coupe du Monde, c'est Iñaki Williams. Iñaki Williams, c'est un joueur qui, très très jeune, a performé avec Bilbao.
Il a un frère en Espagne.
Exactement. À l'âge de 18-19 ans, il commence à performer avec Bilbao. Lui, tout au long de sa carrière, il dit c'est l'Espagne ou rien. À 28 ans, le Ghana se qualifie pour la Coupe du Monde, et il n'a aucun avenir avec l'Espagne.
Bien sûr.
Il fait le choix d'aller jouer avec l'Espagne.
C'est le choix d'opportunisme, bien sûr.
Et ça, c'est extrêmement agaçant.
Oui, bien sûr.
Effectivement, t'as Nico Williams. Maintenant, on va parler du côté fédération. Est-ce que la fédération espagnole ou est-ce que Luis Enrique aurait convoqué Nico Williams, même s'il était performant avec Bilbao, pour la Coupe du Monde, s'il n'avait pas cette double nationalité?
Mais tu sais que cette histoire d'attachement, c'est à la base de tous nos débats foot, que ce soit pour le club, que ce soit, et a fortiori pour l'équipe nationale. C'est ce qu'on aime dans le football, c'est l'identité. C'est tu te sens parisien, tu vas pas jouer à l'OM, tu te sens milanais, tu joues pas... Enfin, c'est le vieux débat du foot, on adore.
Faut pas renier ses origines ni sa culture.
Absolument pas.
Donc, faut pas en profiter non plus.
On parle d'Amine Gouiri au départ. Bon, Amine Gouiri, il a été en équipe de France, jeune.
Mais tous les joueurs que j'ai cités, tous les joueurs que j'ai cités sont passés en 18-19
cette semaine, ils jouent avec les espoirs.
Oui, mais justement, c'est pour ça en Algérie, c'est très bien.
Mais je suis absolument d'accord, c'est qu'il ne faut absolument pas renier. Et moi, dans tout ce débat, moi, je le mets toujours en avant parce que le discours qui avait été, à mon sens, dans ces dernières années, plus intelligent, c'était celui d'Abdou Diallo, l'ancien joueur du PSG,
joueur plus intelligent
du Sénégal. Interview qui était nickel, qui avait dit. Moi, et en plus, il l'avouait et sans honte, et il n'y avait pas de honte à avoir. J'ai bien vu que, de toute façon, j'avais deux cultures, j'avais deux nationalités, je me sentais autant français que sénégalais, peut-être même un petit peu plus français, mais de toute façon, j'aurais pas pu faire carrière en équipe de France. Et dans ma vie, jouer une Coupe du Monde ou avoir une carrière internationale, c'est quelque chose que j'estimais bien pour moi, et cette expérience, le Sénégal pouvait me l'offrir.
Il dit pas que ça. Parce que effectivement,
j'aimais déjà bien cette partie-là.
Oui, oui, mais effectivement, et c'est là où il faut pas être trop dur avec les joueurs qui prennent le choix à 22, 23 ans de choisir la sélection africaine. Je parle pas des Iñaki Williams qui à 28 ans décide, mais je parle des autres. C'est que Abdou Diallo, lui, ce qu'il explique dans cette ITV au Sherman, il dit tout au long de sa jeune carrière, il était en équipe de France U17, U18, oui, U19,
absolument.
C'est ça. Du coup, lui, il n'avait pas de vacances puisqu'il avait chaque année en été des compétitions internationales. Conséquence, il ne connaissait pas exactement. Et un jour, il devait disputer l'Euro Espoir. Sylvain Ripoll devait le convoquer.
Et lui avait une intervention au Sénégal,
il avait une intervention chirurgicale qui devait l'empêcher de faire la prépa. Sylvain Ripoll lui dit, si tu fais pas la prépa, tu viens pas à l'Euro. Lui, il a pris la décision de se faire opérer. Résultat, pas d'Euro Espoir avec l'équipe de France. Il a pour la première fois de sa vie des vacances. Il va au Sénégal. Il découvre le pays, le Sénégal.
Et il découvre
et à
le pays,
ça touche intimement.
Et ça le touche.
Exactement.
Absolument.
Il veut défendre les couleurs du Sénégal.
C'est très juste. T'as bien fait d'ajouter cette partie-là.
On va faire une pause, les gars. Parce que il y a beaucoup de joueurs qui ont joué avec leur sélection nationale. Donc, de l'un de leurs deux pays, sans avoir jamais vu le deuxième pays.
Oui.
Il y en a beaucoup.
Beaucoup.
On fait une pause, on revient dans un instant. D'abord le direct, c'est important, la prolongation, quart de finale, retour de Ligue des Champions, Chelsea-Lyon. Anthony Reich.
104e minute de jeu dans cette rencontre et toujours 1-0 en faveur de l'Olympique Lyonnais. Ce but à la 77e de Vanessa Gilles, une première période de prolongation plutôt dominée par les Lyonnaises, mais qui ne se sont pas procurées de vraies situations dangereuses et n'ont pas mis en danger Berger, la gardienne de Chelsea. 1-0 pour Lyon, 104e minute.
L'after revient dans quelques secondes avec Stéphane Guy, Daniel Riolo, Franck Bellassène et Hamza Rahmani. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Avec Daniel Riolo, avec Stéphane Guy, Franck Bellassène, agent de joueurs, et Hamza Rahmani à nos côtés ce soir pour notre sujet sur les binationaux. Tiens, je vais donner la parole à un auditeur de l'after qui vient de nous appeler au 32-16. Bonsoir Jugurta.
Bonsoir.
Bonsoir. Un prénom de quelle origine, dis-moi, je suis curieux.
C'est d'origine algérienne, c'est Kabyle.
Kabyle. Alors, tu écoutes ce débat entre nous concernant les binationaux. Ouais. Tu es supporter à l'Algérie, j'imagine.
Exactement, de l'Algérie, du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, justement, en tant que binationale.
D'accord. Alors, comment tu as réagi quand tu as appris que Oussem Aouar, par exemple, rejoignait la sélection algérienne?
Alors, comme j'expliquais là en antenne, en fait, tout simplement, ça, c'est bien, c'est une plus-value sur le terrain. Parce que Oussem Aouar, c'est quand même quelqu'un qui a prouvé, même si aujourd'hui il joue beaucoup moins à Lyon, hein, ça on va pas se mentir. Mais moi je trouve que c'est un peu tard et c'est dommage en fait qu'aujourd'hui il y en ait de plus en plus qui aient ce côté un petit peu opportuniste, je pense. C'est bien pour l'Afrique, c'est bien pour le football africain, mais voilà, il y a un côté quand même opportuniste, on va pas se mentir. Mais je pense que pour le terrain, ouais, ça peut être une plus-value.
C'est vrai que c'est un sujet, Hamza, mais je me rappelle à l'époque la sélection algérienne dirigée par Ali Zozic, hein, il y avait un débat infernal parce que Vahid faisait appel à beaucoup de binationaux et beaucoup de supporters algériens lui reprochaient de faire venir des gars qui n'avaient jamais mis les pieds en Algérie, qui, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, ne parlaient même pas la langue.
Hein. Ouais, non, mais il y a eu plusieurs tournants. Alors, il y a eu déjà le changement de règle en 2009 qui a permis à des anciens internationaux espoirs français de jouer en équipe d'Algérie. Je pense à Yedda qui a joué la Coupe du Monde.
Règle qui avait été poussée par la fédération algérienne.
Exactement,
d'ailleurs.
Par Mohamed
Abraoua. Président de l'époque.
Exactement.
Et lui, à l'époque, par Blatter.
À l'époque, il se disait tout bêtement, la formation algérienne, pourquoi est-ce que je me casserais la tête à développer la formation dans mon pays, sachant qu'à 2 heures d'avion, j'ai ce qui se fait de mieux au monde, avec pas mal de possibilités de récupérer des
franco-algériens. On a le droit de critiquer cette mentalité.
Moi, à titre personnel, c'est pas quelque chose qui m'a forcément plu.
Ah oui.
Parce qu'il faut développer quand même la formation au pays. Mais ça a permis cette règle d'avoir des premiers joueurs. Donc Yebda, Mourad Meghni qui devait jouer la Coupe du Monde 2010 et qui la rate sur blessure. Et puis il y a les premiers, ce que moi je vais employer le terme, opportunistes. Coupe du Monde 2010, pareil, un joueur comme Habib Bellaïd qui refuse de jouer en 2006 la Coupe du Monde avec la Tunisie parce qu'il veut jouer uniquement avec l'équipe de France qui finalement, en 2010, il se rend compte que le train est passé, il va choisir l'Algérie pour jouer cette Coupe du Monde. Une seule sélection derrière, après le Mondial, on ne l'a plus jamais revu. Et c'est à partir de ce moment-là où un peu partout, à droite, à gauche, on commence à avoir des fédérations qui vont faire la cour au premier binational, au premier joueur qui a la possibilité d'avoir un passeport de la fédération ou du pays en question. Et effectivement, on a commencé à avoir certaines dérives en Algérie, au Cameroun, au Maroc, au Sénégal, enfin dans plusieurs pays.
Mais ailleurs en Europe également.
On peut prendre. Hein. Mais en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui...
Pourquoi appeler ça dérive ?
Pour moi, c'est une dérive.
Faut pas appeler ça dérive.
Pour moi, c'est une dérive à partir du moment où on profite d'une situation...
C'est une opportunité. Faut pas appeler ça dérive. Moi, je trouve que gérer un joueur qui a grandi en France, qui a été formé en France, qui n'a pas l'opportunité de jouer dans l'équipe nationale française, qui a la double nationalité franco-marocaine, franco-algérienne, franco-sénégalaise, franco-malienne, et à qui on propose l'opportunité d'aller dans une sélection, de jouer une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde, je trouve pas ça une dérive.
Mais si on lui propose à 20 ans, c'est génial, mais si on lui propose ça à 20 ans, regarde Bounassar.
Sincèrement, c'est pas grave. À la fin de sa carrière, il aura joué pour son équipe nationale. Je trouve pas ça.
C'est pas grave. Le fait que ça arrive à 20 ans ou à 28 ans, si le gars n'a jamais eu de carrière internationale, c'est quand même. Bon, oui, là. Enfin, en fait, c'est pas que c'est grave. Au fond, c'est pas grave.
Faut savoir ce que la question, c'est
si
que
le mec a 28 ans, il n'a jamais mis les pieds dans le pays. Non, mais après tout, c'est que du foot. À la limite, on s'en fout. Moi, ce qui m'emmerde, c'est plus quand tu es dans une démarche de rejet du pays ou que tu vas à contre-cœur.
Vous croyez qu'un gardien comme Bono au Maroc,
qui est condamnable, mais le
qui
reste,
est né au Canada, qui a grandi en Espagne.
Ça, tu dis, pardon.
Bono, le gardien du Maroc.
Ah oui.
Qui est né au Canada, qui a grandi en Espagne, qui connaissait pas le Maroc, hein, vraiment, qui parle même pas arabe, hein, Bono, parce que moi j'étais avec lui à l'hôtel à Doha, il parle pas arabe, hein, et il a joué une demi-finale de Coupe du Monde.
Mais quoi, ouais, mais les mecs à la base, ils ont
c'est génial.
À un moment, si t'as pas un lien, à un moment, si t'as pas un lien qui est comme
mais
une
forme
d'attachement,
il a un lien familial.
Il a le lien familial. Encore faut-il qu'il soit réel. Parce que sinon, tu tombes dans les excès de tu sais, tu te souviens de l'équipe de handball du Qatar,
oui,
où t'avais des mecs à qui on avait donné un papier deux semaines avant.
Exactement.
Le problème, c'est que l'excès, ça peut devenir ça.
Alors ça, au Qatar, c'est Jamel qui l'a commencé quand il est parti entraîner au Qatar. Il a amené quelques joueurs qui n'avaient pas joué dans des sélections, il les a amenés au Qatar dans l'équipe
nationale. Le club, pardon.
Dans le club, et puis il les a rendus qataris, et puis ils ont joué en équipe.
Oui. Je pense à un joueur. Mais bon, là, c'est quoi l'équipe? Elle représente quel pays, cette équipe-là?
Ça a bien marché.
Ouais, ça a marché un petit peu, mais.
Après, pour le handball, ça a marché, ils ont fait finale,
L'équipe du Qatar, elle a même pas joué, là, pendant la traversée. Elle voulait, personne ne l'a noté, mais l'équipe nationale, elle a pas joué.
Mais ils avaient pas besoin, c'était pas, une fois la Coupe du Monde finie, c'était
fini. C'est la Coupe d'Asie qui arrive
au Qatar. Dans les beaux stades.
Franck, je vais rendre la parole à Jugurta qui la demande également au 32-16. Jugurta, tu voulais intervenir?
Ouais, je voulais juste en fait préciser, parce que là on dévie un peu en parlant du Qatar, je trouve. Là on parle vraiment de gens qui ont leurs parents qui sont nés effectivement en Algérie, au Maroc, au Cameroun et autres. Et on parle de mecs qui finalement à 24, 25, 26 ans se décident parce que ils n'ont pas finalement l'opportunité de jouer en France, d'aller jouer ailleurs. Alors, mettez-vous à la place maintenant de ceux qui sont dans ces pays-là, en Afrique, qui aimeraient aussi que ce
absolument,
soit développé.
Absolument, absolument. Le joueur local, tu veux dire.
Et nous, le mec, il a... Bah exactement. Le mec, il dit, attends, j'ai 26 ans, je galère. Je joue à l'USM Alger ou j'en sais rien. Et puis l'autre, il débarque de Grenoble. Ah bah attends, tiens. Moi, je vais jouer. Bah, j'ai
mais t'as absolument
Grenoble.
Raison, on n'en parle pas assez de ça. Tu fais bien de le dire, ça, bien sûr.
Ah ouais.
Bien sûr.
C'est quand même dommage.
Ouais. Mais c'est pas la faute des joueurs qui disent oui. C'est
bien sûr.
C'est la faute.
Oui,
c'est la faute des fédérations qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour former leurs joueurs.
Parce qu'après, ça ressemble à un mercenaire, le gars. Tu vois, c'est genre, ah bah tiens, je me découvre d'un coup un attachement au pays de mes parents. Ça se trouve, j'y allais même pas.
Aujourd'hui, Aouar, c'est le parfait exemple. Qui était.
Alors qu'un Mahrez, non. Mahrez, par contre, je suis désolé, c'est vrai, hein. Il avait le niveau et pourtant il s'est dit bon allez je l'attente.
Rappelle-toi la polémique autour de
Mahrez, né à Sarcelles, je précise.
Oui non bien sûr.
Mais Aouar, c'est pour tout exemple, tout le monde pensait qu'Aouar allait aller en équipe de France, devenir
une sélection non officielle, c'était un match amical avec l'équipe de France.
Il allait y aller et qu'il avait un avenir en équipe de France. Alors les gars, il y va plus.
Tout à l'heure j'ai parlé d'un effet Benzema, c'est vrai qu'en appelant en passant des coups de fil en Algérie, c'est un refrain qui revient régulièrement. Et je disais également une déclaration d'un scout algérien dans les colonnes de l'équipe la semaine dernière qui disait recruteur Stéphane.
J'ai entendu un Scott. Moi aussi j'ai entendu un Scott.
Un Scott, c'est un Scott, j'adorais moi quand j'étais jeune.
Le petit accent girondin de Nico.
Un scout.
Non, c'est Octave qui parlait là, Stéphane.
C'est Octave.
Nico, un scout.
Un scout qui disait le mauvais feuilleton Benzema et le peu de joueurs maghrébins chez les Bleus en ce moment sont un atout pour nous. Alors il le dit, il précise, à la marge, mais ça joue quand même peut-être actuellement pour expliquer les décisions précoces de certains jeunes joueurs qui jouent en U19, U20 en France.
Et pourquoi,
de partir
et pourquoi ça a joué? Parce qu'il y a une autre conséquence.
C'est approuvé bien sûr.
Dans ma liste. Non mais c'est approuvé.
Pour moi c'est faux.
Moi je te dis que c'est une réalité pour beaucoup de
pourquoi,
gens.
Pourquoi maghrébin, t'as vu, il y a plein de joueurs de couleur d'équipe de France qui viennent de différents pays d'Afrique et qui jouent en équipe de France? C'est faux. Moi je pense qu'aujourd'hui on a un réservoir de fou en France.
Non, c'est pas ça. Le sens de ce qu'a mis en avant Nico, c'est que certains jeunes Algériens qui ont pour idole Karim Benzema ont estimé qu'il a été maltraité par l'équipe de France.
Ah, ça c'est autre chose.
Non, c'est pas autre chose. C'est le sujet dont je te parle. Et que en ayant pour Benzema comme idole une sorte de porte-drapeau quelque part des binationaux. Dans leur ensemble, des franco-algériens, on va dire, le voyant maltraité par l'équipe de France, sont dit, bah voilà, si c'est pour, alors que lui, il est ballon d'or, être traité de cette façon-là, autant aller dans le pays de nos origines. Le corollaire à cette histoire, à laquelle je crois profondément, parce que j'en ai beaucoup entendu parler, c'est quelque chose qui est un constat absolument indéniable, c'est la montée du communautarisme dans nos sociétés, inspirée, venue des États-Unis, qui aujourd'hui en France, l'universalisme recule et le communautarisme grandit de plus en plus. Les jeunes d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, et là, il n'y a pas de jugement bien ou mal à porter. C'est une réalité. Tu vas dans les centres de formation, tu te demandes qui se sent français ou qui se sent algérien, un franco-algérien, la réponse, elle va pas être si nette, elle va pas être aussi nette que ça. Donc, le gamin se sent plus proche de ses origines, parce que le constat de ce communautarisme, il est évident à faire aujourd'hui dans notre société. Et le gars, s'il a envie de se sentir, parce que la façon dont a évolué notre société, de se sentir plus algérien que français, Eh bien, c'est son ressenti et je n'ai pas réellement de jugement à porter là-dessus. C'est notre société qui a évolué de cette façon et le modèle français qui s'est essoufflé au fil des années et depuis très longtemps maintenant et on a voulu trop longtemps le nier.
Cette binationalité sportive, on a l'impression que c'est un problème, c'est une situation franco-africaine, mais c'est quelque chose qui touche en fait énormément de pays. Je vous invite à voir ce qui se passe notamment au Mexique et aux États-Unis. Oui. Le nombre d'enfants nés aux États-Unis de parents mexicains qui font parfois des allers-retours, U17 Mexique, U18 États-Unis, U19 États-Unis, U20 Mexique, et en fait c'est en train de se propager partout. En Argentine également, avec la convocation de pas mal de joueurs binationaux espagnols.
Mais tu parles des États-Unis, le communautarisme là-bas est effectif.
En fait, c'est
nous, chez nous,
excusez-moi,
on a
les gars,
trop longtemps
c'est passionnant, mais là c'est important. But entre Chelsea et Lyon, je dirais.
Et le deuxième but lyonnais, le deuxième but peut-être celui de la qualification. C'est Sarah Dabritz, allemande, qui est à la réception d'un centre venu de la droite. Elle est au deuxième poteau, un peu esselée. Elle reprend le ballon, une petite frappe court, croisée, à terre parfaite, qui trompe Berger. 2-0 pour les Lyonnaises, les joueuses de Sonia Rupastor qui exultent. Après cette réalisation, il reste encore une dizaine de minutes dans cette deuxième période de la prolongation.
Allez, je reviens à ce que tu disais, Hamza ou Daniel, je ne sais plus qui avait la parole. Qui veut la reprendre en tout cas,
non,
c'est
non,
plus important.
Hamza disait à juste titre qu'effectivement, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus partout dans le monde. Mais effectivement,
les Pays-Bas et le Maroc, il y a des relations étroites de ce point de vue-là également.
Oui, il y en a vraiment partout. Et puis après,
même en Allemagne aussi aujourd'hui.
Il y a des joueurs qui sont convoqués de plus en plus jeunes dans certains pays. Et puis il y a ce que je continue d'appeler les opportunistes. Quand l'Italien Gianluca Lapadula est convoqué avec le Pérou alors qu'il est plutôt sur la fin de carrière que sur son début de carrière. Là, c'est de l'opportunisme pur et dur développer une carrière internationale, comme Jérémy Morel, qui arrive trois mois.
Le problème, c'est pas lui, comme a dit Franck Crémet tout à l'heure. Mais ce sont les fédérations qui tolèrent ça. C'est ça le problème. Voilà, on arrête là sur ce débat. C'est très intéressant. Beaucoup de messages, sur notamment le chat de la chaîne Twitch RMC Sport. Hamza, toujours très pertinent. Daniel, très pertinent également. Stéphane, regarde, on te voit, le match surtout entre Chelsea et Lyon ce soir.
C'est vrai, j'avoue.
Je précise, les gars, Yacine Bounou a grandi au Maroc, Franck, désolé.
Non, il est né au Canada. Hein.
Né au Canada, mais il a grandi au Maroc. Tu as raison, né au Canada, mais il a vécu au Maroc quelques temps dans son enfance.
Moi, j'étais avec lui, je vous dis qu'il ne parle pas arabe. Hein.
Il n'a pas dit une erreur, tu as bien dit qu'il était né au Canada. Très bien, merci.
Il y a un autre élément,
Hamza. Maintenant, tu veux lancer le débat.
Maintenant, Lyon a marqué le deuxième but.
Ça y est, il est libéré.
Il faut qu'on fasse une pause.
Stéphane revit ses grandes soirées.
Elles font une grosse perf, les Lyonnais. C'est chouette de voir ça.
Je remercie Jugurta d'avoir fait le 32-16. Excellente soirée à toi. Tu reviens quand tu veux sur RMC Jugurta et nous, on revient dans quelques secondes. Merci, Hamza. Tu peux rester là autour de la table aussi. Tu as fait le déplacement. On est heureux de t'avoir à nos côtés. Reste avec nous, la suite de l'after dans un instant.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Avec Stéphane Guy, avec Daniel Riolo, avec Franck Bellassène et avec Anthony Reich, qui commente la deuxième période de la prolongation de Ligue des Champions. C'est un quart de finale retour entre Chelsea et Lyon, Anthony.
Ouais, il reste encore 6 minutes 30 dans cette deuxième période de prolongation. On est à la 114e minute et les Lyonnaises pour l'instant qui arrachent cette magnifique qualification à Stamford Bridge en menant 2-0 grâce à ce deuxième but de Sarah Dabritz. Elle maîtrise vraiment bien cette prolongation, une énorme prolongation de la part des joueuses de Sonia Bonpastor. On lui disait enterrée ces derniers jours et elle prouve encore une fois que c'est une immense équipe sur l'échiquier européen. Encore 6 minutes à jouer.
Voilà, tout à l'heure, Anthony. Patrice Evra était donc l'invité de Rotten sans flamme, que vous retrouvez tous les soirs de 18h à 20h sur RMC. C'était aujourd'hui. Alors, pêle-mêle, il déclare que si le PSG n'est pas prêt à gagner la Ligue des Champions, c'est parce qu'il joue tellement avec un cigare dans la bouche en championnat que c'est compliqué quand le niveau s'élève. Un débat qu'on a eu maintes fois.
Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique, là. Oh là 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 là.
Il ajoute qu'au PSG, que le PSG est un club show business où le football n'est pas la priorité. Écoutez-le.
Oh là là,
écoutez-le.
Là aussi, hein.
Dans les tribunes, tu vois pas des Bernard Lama ou je sais pas qui, tu vois des Kardashian et compagnie. On est un club, j'ai même dit on est, je suis pareil, mais show business.
Le foot est pas la priorité.
Mais non. Aujourd'hui, pour moi, quand je vais voir un match de Paris, pour moi, je vais voir un concert. Je suis en VIP, les sièges, champagne, petit four. Mais les gars, ils sont où les anciens? Quand tu vas à United, sur le siège, il y a écrit Evra, il y a écrit les légendes. Il y a pas Leonardo DiCaprio qui va venir voir le match. On n'est pas à Hollywood. Et ça, pour vous, les gars, ils rigolent. C'est des petits détails. Non, vous dire, mais il est fou. C'est pas ça qui va faire. C'est des priorités. Refait venir les anciens. Paris, c'est une histoire. Paris, c'est pas quand les Qataris ont repris le club.
Bon, on fait le même constat.
On est évidemment d'accord avec Patrice Evra. Forcément, maintenant, Jean-Louis, s'il veut entendre ça, il m'invite la prochaine fois, je vais lui dire la même chose.
Juste question quand même sur les anciens. Dans quelle mesure d'avoir des anciens.
L'équipe de France et quelques titres en première ligue, Daniel.
Dans quelle mesure d'avoir des.
Est-ce que ça renforce le propos?
Ah bah, je pense qu'il a une carte de visite qui lui permet de parler un petit peu de ce que c'est que de gagner avec des champions quand même.
Il a fait
5 finales.
De toute façon, il a raison.
Tu penses quoi quand tu dis qu'il faut des anciens en tribune? C'est peut-être un détail pour vous, mais ça peut dire beaucoup et à l'arrivée d'une saison, ça peut être important. Franchement, t'as besoin d'avoir des anciens en tribune?
Non, mais il y a
Bernard Lama au Parc des Princes pour te pousser.
Il y a besoin de rappeler effectivement que Paris n'est pas né en 2011, le club Paris Saint-Germain n'est pas né en 2011. Il est important de rappeler que le projet sportif est secondaire. Clairement, dans ce projet-là, c'est un projet secondaire. C'est un projet.
C'est quand même depuis un certain temps, ils ont créé ce lien avec ces anciens, puisque vous voyez à chaque match aujourd'hui un ancien qui est mis en avant, c'est Christian Gavel, l'ancien photographe du Paris Saint-Germain qui s'en occupe. Donc ils essayent de mettre en avant aussi et de donner honneur aux anciens un petit peu depuis cette année ou l'année dernière, je crois. Mais
ils l'ont fait, ils ont invité des Susic, tu sais, mais le problème c'est que c'est la façon dont c'est fait, c'est je t'invite, ça fait Susic, je le préviens mais il peut pas venir, j'ai l'agence qui s'occupe d'avoir que des people dans la corbeille. Donc c'est comment tu t'en sers, si c'est juste pour faire la photo. C'est pas ça qui compte. Si tu mets Bernard Lama en tribune, allez hop, au revoir tout le monde. Les joueurs, ils savent qui c'est? Est-ce qu'on raconte quelque part l'histoire aux joueurs? Puisqu'un jour Zlatan est arrivé et il a dit il y avait rien avant moi ici. Bien sûr. Et personne lui a fait fermer sa gueule. Et quand moi je l'ai fait, je me suis fait insulter par tous les nouveaux footy PSGX là. Si on ne dit pas aux joueurs de fermer sa gueule quand il dit ça. Bah, tu peux mettre Miss Monde, Susic, Daleb, qui tu veux en tribune. Si personne le sait, qui sont ces gens-là. Si on n'explique pas aux joueurs qu'il faut respecter l'histoire et ce qu'est l'histoire. Moi, je leur donnerais des cours. Je dirais voilà,
Daniel, il s'est passé ça, ça. 80% des gens qui sont au stade au Parc des Princes les soirs de match, ils connaissent pas l'histoire.
Mais bien sûr, parce qu'ils ne font que revendre les places maintenant pour se faire du blé.
Ils savent pas ce que c'est que l'histoire.
Il y a énormément d'abonnés, ils revendent la place pour amortir le prix de l'abonnement sur l'année.
PSGX, c'est un nouveau concept ce soir qui fait beaucoup réagir.
Non,
c'est
longtemps PSGX.
Je l'avais dit PSGX. Alors c'est intéressant parce que ça rejoint la confidence de Daniel Vess qui a dit ça à Patrice Evra. C'est lui qui le dit dans l'émission. Il lui dit, j'ouvre les guillemets, mais Pat, ils ne vont jamais gagner la Ligue des Champions. T'arrives, on est des rockstars. C'est tapis rouge.
Et bien sûr.
C'est intéressant.
Daniel,
c'est
un joueur du PSG qui le dit.
Il y a eu un parallèle amusant la semaine, le fameux match où Kim Kardashian était au Parc des Princes et où elle était. Moi, je rappelle quand même qu'ils ont envoyé à tous les supporters
jour de défaite,
du club un message 2 heures avant. Et attention, un grand événement se prépare au coup d'envoi. Donc, je sais pas, on s'est dit qu'est-ce que ça peut être. Donc, c'était Kim Kardashian, le grand événement. 3 jours avant, elle était à l'Emirates, ce stadium à Londres, pour Arsenal Sporting du Portugal. Elle était au stade, elle a sans doute été très bien reçue par Arsenal, mais à aucun moment elle a
oui,
été
ils l'ont pas
mise en
verre virage avec
dans
une merguez.
Non, mais elle a pas non plus, à aucun moment elle a figuré dans la soirée. Elle n'existe pas, et c'est normal.
Bon, quand le PSG envoie ce message, c'est pour Kardashian, certes, c'est aussi pour les feux d'artifice avant le match ou l'animation plutôt avant le match au Parc des Princes.
Non, pas un
événement, mais ça reste aussi.
C'est hors
foot, effectivement, que ce soit Kardashian ou les
marque,
animations avant le match.
La marque PSG, évidemment, a fait des bons. De il n'y a aucun doute là-dessus.
Ça les a pas fait gagner le jour-là.
Est-ce que le PSG a fait des bons au niveau sportif? La question est vite répondue.
Bon. Également interrogé Patrice Evra sur Kylian Mbappé, il lui suggère de partir pour devenir. Alors, il faudra se mettre d'accord sur la définition du terme légende également, pour devenir une légende. Écoutez sa réponse.
Tu vois, légende quand même. C'est des années.
Oui.
C'est pas, tu vois, Kylian, il va regagner encore une Coupe du Monde, etc. Mais légende, il faut qu'il gagne aussi un ballon d'or.
Il faut
qu'il gagne une Champions League avec Paris.
Exact.
Ou même s'il va dans un autre. Donc légende, c'est énorme. Bon. Après, je trouve que Kylian, il a la tête sur les épaules. Il a une personnalité incroyable. Donc je me fais pas de soucis. Mais d'aujourd'hui,
c'est un
monstre, tout de suite.
C'est surtout un
monstre. C'est un extraterrestre. Ouais. Après, je te dis, en France, voilà, on dit c'est une légende. Mais à l'étranger, pour eux, c'est pas encore une légende, surtout en Angleterre, parce qu'ils veulent que Kylian aille au Real ou à Manchester United ou je sais pas où pour prouver encore plus.
Bon, voilà, le rayonnement de Mbappé qui, s'il reste limité à la France, ne lui offrira pas de ballon d'or. Bon, c'est un avis, celui de Patrice Evra. Réaction là-dessus, les gars? Non, n'intéresse pas. les gens.
Non, mais moi je me souviens d'une anecdote que j'ai vécue à l'époque, quand Arsène Wenger a tenté de recruter Kylian Mbappé pour l'emmener de Monaco à Arsenal. Et déjà très structuré dans sa tête, Kylian Mbappé, dans sa réponse, lui avait dit notamment, mais Arsène, moi je veux être le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Je peux pas aller jouer à Arsenal, parce que si je me fais éliminer tous les ans en huitième de finale, voilà. Donc je veux être dans un club qui joue la gagne avec des champions tous les ans. Bah, depuis qu'il est à Paris, il prend du retard, par exemple, cet objectif-là. Donc c'est à lui de s'interroger. Alors évidemment, les salaires parus dans l'équipe ce matin, mais bon, qui ne font que confirmer ce que tout le monde sait. Kylian Mbappé est tranquille, hein. Il a ses 300 millions qui tombent chaque année. Ça, c'est quelque chose qui entre évidemment en compte dans son raisonnement. Mais d'un point de vue sportif, quelle étape a-t-il franchi depuis qu'il est à Paris? Aucune.
Karim nous a appelé au 32-16 pour parler de Kylian Mbappé, justement. Salut Karim.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir, bienvenue dans l'After avec Stéphane, Daniel et Franck. Est-ce que tu penses, toi, comme Patrice Evra, c'est ce qu'il semble dire, en tout cas, que Mbappé doit quitter le PSG pour grandir et alimenter son palmarès?
Alors oui, moi je suis d'accord avec Evra quand il dit ça. Et en fait, moi j'ai envie... je vais pas taper sur Mbappé, hein, le niveau du joueur, il est exceptionnel. Mais en fait, je trouve que Mbappé au PSG, c'est devenu le FC Mbappé. C'est-à-dire qu'on peut plus rien lui dire. Et je trouve que c'est délirant que personne ne remet en cause que Mbappé joue sur un côté. Pour moi, vraiment, un entraîneur qui vient au PSG, qui a du caractère et qui peut aller voir Mbappé et qui lui dit « Mais vu ton niveau, tu dois jouer dans l'axe. Tu peux pas jouer sur un côté. »
Oh non, moi là, je suis pas d'accord. Cristiano Ronaldo a fait l'essentiel de sa carrière... on dit un côté, mais c'est pas vraiment un côté. Messi, c'était pareil. Il y a eu plein de joueurs. Mo Salah a gagné la Ligue des Champions en n'étant pas un avant-centre. Non, ce que tu dis, je ne comprends pas.
Mais en finale de Coupe du Monde, il n'était pas dans l'axe. Hein. Il était sur
juste,
un côté.
Je peux juste finir.
Bien sûr, Karim. Vas-y.
Non, pourquoi? Parce que quand on prend des joueurs comme Mohamed Salah, Sadio Mané qui ont gagné la Ligue des Champions, le travail qu'ils font sans ballon, Mbappé, il ne peut pas le faire. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Mbappé, lui, il ne peut pas le faire. Moi, Mbappé, si je le prends, je lui dis, tu veux jouer dans l'axe? Je lui mets des cassettes vidéo de R9, de Samuel Eto'o, de Luis Suarez, des vrais neufs. Tu veux jouer sur un côté? Oui, Léo Messi au début de sa carrière. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Messi? Messi, il a demandé à Guardiola de jouer dans l'axe. Parce que le travail que tu fais sur un côté, il est trop important, le jeu sans ballon. Quand tu prends Ribéry...
D'accord, là je comprends ce que tu veux dire.
Et le problème de Mbappé, c'est pas un problème. Mais quand on voit, par exemple, même en équipe de France... hein, que le meilleur match du Maroc, ça a été contre l'équipe de France, c'est parce qu'aussi un peu Mbappé, il travaille pas sur son côté. Et ils ont bien utilisé, en gros, ce décalage. Et souvent, je trouve que Mbappé...
tu veux dire, s'il veut jouer sur le côté, il faut qu'il accepte les contraintes de ce poste-là.
Exactement. Et il faut pas prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo, parce que c'est le plus mauvais exemple. Il y en a un sur Terre. Il y a que lui qui a réussi à faire ça, à être performant en jouant sur un côté. Et même Léo Messi... Mais lui aussi, il ne faut pas le prendre en exemple, mais même Léo Messi, il a demandé à jouer dans l'axe pour, on va dire, se délester du travail, parce qu'il travaillait beaucoup sur le côté au début de sa carrière à Barcelone. Même si dans l'axe, il faut travailler, on va dire que dans l'axe, c'est là où on travaille le moins. Et pour moi, Mbappé, il n'y a personne qui l'a remis en question, qui lui a dit, écoute, tu n'as pas amélioré ton jeu de tête. Comment tu peux oser dire, quand tu es dans l'axe, pivot gang? Samuel Eto'o, quand il était dans l'axe, on lui a dit pivot gang. Il a dit pivot gang, non. Parce que le poste le plus difficile, c'est de jouer face aux deux défenseurs centraux. Et voilà, c'est un match dans un match. Savoir utiliser les espaces, faire du bien, vu le niveau.
Non, mais t'as raison, Karim, ton analyse est assez juste. Hein. Moi, je...
On peut le partager.
Excusez-moi, mais là, il faut.
Non, les gars, on fait une pause parce que c'est énorme, important de à dans ce quart de Ligue des Champions. Lyon met 2-0 à Anthony Reich.
124e minute de jeu. Elle siffle le penalty. L'arbitre, après avoir visionné les images, pour une faute sur l'attaquant de Chelsea, James, qui est franchement, à peine touché par Vicky Béchaud. Il y a un tout
petit. Franchement, Anthony, il y a quand même un. Je suis désolé, ça me fait mal au cœur, mais il y a un
petit
contact.
Il y a un tout petit contact, c'est ce que j'allais dire, au niveau des pieds. Et après, elle se fait un croc en jambe elle-même, James, et donc il y a pénalty. On est à la 124e minute, ce qui veut dire que si ce pénalty est transformé, on ira sur une séance de tir au but. C'est évidemment essentiel, décisif, et ça sera Christian Endler.
Comment sur péno, la gardienne, là?
Elle peut en arrêter. Elle en a déjà arrêté dans sa carrière. Elle est capable de le faire. Elle est plutôt douée dans cet exercice. On va voir si elle va réussir à sauver.
Elle va avoir un peu de pression, l'anglaise, là, quand même, non?
Ah, bah oui, complètement. Complètement. Là, mais là, il y a beaucoup Brice de choses James, autour du ballon. Il y a beaucoup de Lyonnaise. Ça va pas être pour tout de suite, je pense, le tir de ce pénalty. Ah, si, peut-être le ballon va être posé. Nico, tu me dis si on le suit.
On reste avec toi, évidemment.
On est à bloc, là, maintenant, là.
Allez, on est à la 125e minute de jeu. 5 minutes de temps additionnel dans cette deuxième période. De prolongation, ça y est, le ballon est posé. On va
la pression, l'égalisation, la dernière seconde. Là.
Ah oui. Christiane Endler, la gardienne chilienne qui a le masque, elle est très très concentrée. Elle est en train de se mettre en place sur sa ligne. On va voir Emma Hayes, la coach de Chelsea, qui ne veut pas regarder la situation. Elle a tourné le dos au terrain. Tout le monde retient son souffle dans Stamford Bridge. C'est le duel décisif pour la qualification. Est-ce que Christiane Endler va partir du bon côté? Elle va sauver la patrie lyonnaise ou pas? On attend le coup de sifflet de l'arbitre. Allez, le signal, c'est assez long. Elle est en place sur sa ligne. Christiane Endler, c'est parti. La course d'élan, non. Elle remet le ballon. Elle remet le ballon là. La joueuse de Chelsea.
Elle se rajoute de la pression là, en toucher le ballon comme ça. Alors là,
et l'arbitre qui essaye de. Les Lyonnaises qui sont folles furieuses.
Le ballon déjà.
Les Lyonnaises qui sont folles furieuses, elles demandent.
Elle a touché le ballon avec les mains. À partir du moment où la gardienne, à partir du moment où l'arbitre a dit tirer, c'est bizarre quand même.
Eh c'est un carton rouge et expulsion de qualification.
Bien sûr. Normalement, il y a un.
Là, il se passe quelque chose parce que les Lyonnaises sont folles furieuses. Effectivement, elle a touché le ballon après avoir entendu le coup de sifflet.
Bah ouais.
Il devrait y avoir. Sanctions.
Oh, ça va durer. Alors là, c'est un cas inédit.
Il y a Sonia Bonpastor qui demande des explications aussi.
Donc, pour ceux qui ne voient pas, les auditeurs, l'arbitre siffle pour tirer le péno et l'autre, elle veut replacer encore le ballon et elle va le prendre avec les mains.
Alors que le ballon était en jeu, puisque l'arbitre avait sifflé.
Et oui.
C'est ce que réclament les Lyonnaises. Elles disent que c'est pas normal.
Les Lyonnaises réclament un coup franc qui serait logique.
Une tonne de pression pour tirer le péno maintenant.
Donc là, il y a un énorme débat. L'arbitre qui essaye de.
D'un point de vue réglementaire, j'aimerais savoir, mais si l'arbitre a sifflé, elle va prendre le ballon avec les mains, il y a main.
Elle a touché le haut de la main.
Ouais, mais je t'annonce qu'elle va pas revenir sur le penalty.
C'est reparti. Allez, cette fois-ci, elle a repris sa course d'élan. On va voir si cette fois-ci, elle va pas miel 2, elle va pas faiblir. Cette fois-ci, on est prêt. Il n'y a pas de l'arbitre qui refait ses consignes. Elle redonne ses consignes à Christiane Endler, la gardienne de l'Olympique Lyonnais, qui est sur sa ligne. Elle sautille dans tous les sens. Elle agite les bras. La portière de l'OL. C'est parti, miel 2 qui frappe. Et c'est pleine lucarne sur la droite de Christiane Endler. On va avoir le droit à une séance de tir au but qui va sentir le souffle. Ça va être exceptionnel ce moment. C'est vraiment difficile. 2-1 pour Lyon. Et donc, on aura le droit à la séance de tir au but.
À tout à l'heure, Anthony, pour la séance de tir au but. On fait une pause. Je remercie Karim d'avoir fait le 32-16. Tu nous rappelles quand tu veux. Désolé, on t'a coupé, cher Karim.
Non, mais c'est ce qu'a dit Karim. Je vais le retenir parce qu'il a dit un truc qu'on n'a pas souvent dit.
Mais il y a
une position qui demande aussi des efforts.
Oui, le problème, c'est que dans les équipes qui ont une superstar comme Mbappé, il y a une superstar et qu'elle joue à droite comme Messi à Barcelone, à gauche comme Ronaldo et Manchester United, ou Mbappé. Bon,
D'où le déséquilibre, le côté exonération de l'effort. Le Liverpool qui est champion d'Europe, il y a personne qui est exonéré.
Il y a pas de superstar de Liverpool qui est champion d'Europe.
Ah, donc une superstar, c'est forcément exonéré de l'effort.
Il y a Klopp.
Pardon, je comprends pas.
Il y a Klopp.
Il y a quand même l'exception.
Ouais, mais
si l'exception.
Le côté, toi t'es la star, c'est donc toi on t'accorde des passes droits.
J'ai bien observé au Stade de France contre les Pays-Bas le comportement de Kylian Mbappé. C'est pas le même qu'avec le Paris Saint-Germain en équipe de France. Il défend pas au poteau de corner, mais il fait le travail de replacement. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu en tout cas au stade.
Franck n'est pas convaincu, en tout cas, lui, de son côté. Bon, on fait une pause et on suit ensemble la séance de tir au but du quart de finale retour de Ligue des Champions entre Chelsea et Lyon. Vous écoutez l'after, vous écoutez RMC, à tout de suite.
C'était ce matin sur RMC.
Jean-Luc Mélenchon qui nous dit: si tous les gens qui traitent Macron d'ordure payent 15 000 euros d'amende, on va vite avoir assez d'argent dans les caisses de l'État et on n'aura plus besoin de la réforme des retraites. Alors je commence. Macron, ordure. Allez, c'est cadeau, c'est pour moi, je m'en fous, je suis millionnaire.
Arnaud Demanche est chaque matin à 7h20 et 8h20
dans Apolline Matin sur RMC.
Tout de suite, réécoutez C'est tous les jours de manche en podcast.
Sur toutes vos plateformes, sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Avec Stéphane Guy, avec Daniel Riolo et Franck Bellassène, notre invité ce soir, agent de joueur, hein, qui fait les deux heures avec nous. C'est un plaisir, Franck. Hein,
merci à vous.
Tu apportes beaucoup d'éclairage.
Ouais, ouais.
Tu pourras aussi venir.
Le foot, c'est un plaisir. Je travaille, c'est vrai, je gagne bien ma vie, mais le foot, c'est un plaisir avant tout.
Tu connais Génération After ?
Ouais, je connais Génération After.
Tu pourras venir aussi une fois ou deux dans Génération
After. Avec grand plaisir. j'adore votre scouting.
C'est-à-dire
le podcast scouting. J'adore.
Ah, le podcast scouting. Ouais, je croyais le choix de nos consultants dans Génération After.
Non, les consultants sont les consultants.
Et aussi, bien sûr.
Il n'y a pas d'autre radio que RMC aujourd'hui sur le football.
Dans un instant, on va suivre. Hein, ça va démarrer dans quelques secondes la séance de tir au but entre Chelsea et Lyon. C'est incontestable ce que tu viens de dire.
Eh oui,
tu n'as pas dit ça, on dirait Evra qui parle du PSG.
Sur le foot en général, hein, pas que à la radio.
Un mot quand même. On l'a appris aujourd'hui. Donc Hervé Renard, 54 ans, est devenu officiellement, puisqu'on parle de foot féminin, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France.
Voilà, moi je laisse
football.
Stéphane, j'ai une séance de peine à regarder.
L'info, c'est qu'il devrait faire appel.
C'est pas Fichon, c'est pas Valladolid.
Quel hommage.
C'est Chelsea-Lyon.
Quel hommage,
mesdames, messieurs.
Allez, on va suivre. Allez, on va suivre.
Écoute, Nico, il a te parlé.
On va suivre.
Tu t'es pas resté jusqu'à minuit pour rien. Hein. Allez, parle avec Nico. Là.
Allez, Anthony, première joueuse à s'élancer. C'est une joueuse de Chelsea.
Et c'est Miel 2, justement. C'est encore la joueuse qui a transformé le pénalty tout à l'heure. Qui
va lui remettre
va avoir droit à un deuxième duel face à Christian Endler. Pour rappel, la dernière fois que l'Olympique Lyonnais a joué une séance de tir au but, c'était lors de la finale homérique 2017 face au PSG. Et les Lyonnaises s'étaient imposées au bout de 9 tirs au but à 8 de mémoire. 8 à 7. Donc ça leur est réussi la dernière fois. Là, allez, c'est parti. Parti pour Miel 2 qui a mis en place cette fois-ci correctement le ballon. C'est parti, et encore une fois croisé sur la droite de Christian Endler, imparable. Elle était partie du bon côté. La gardienne de l'Olympique Lyonnais mais un peu trop court. Parfaitement frappé. 1-0 dans cette séance de tir au but pour Chelsea. Avantage Chelsea.
1-0 pour Chelsea dans un instant, une Lyonnaise. Je profite de l'interlude pour l'instant pour vous dire que Hervé Renard est donc sélectionneur de l'équipe de France féminine de football. Il a signé pour 2 ans jusqu'en 2024, 1 an. Il a 4 mois
pour l'instant
préparer la
Coupe du Monde et JO.
4 mois à préparer la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques à Paris, donc l'été 2024. Hein. Anthony peut nous parler de tous les sujets, mais d'abord, le tir au but de la Lyonnaise, c'est important.
Et c'est Jennifer Marozan, l'Allemande, qui a placé le ballon, la première tireuse du côté de l'OL. Elle va faire face à Catherine Berger. C'est parti, c'est croisé, parfait, à terre, dans le petit filet sur la droite de Berger. Un partout, les deux équipes sont à égalité.
Sonia Beaupastor qui a des faux airs de profil, Justine Hénin.
Eh oui, c'est
absolument,
vrai.
Absolument, Nico. Bien joué. Bien joué.
Ouais, ouais, bien sûr.
Justine Hénin. Un partout, donc,
c'est l'ancien gardien du Stade Lavallois, Christophe Gardier, qui s'occupe des gardiennes à Lyon.
La Mayenne est représentée.
Vous vous rappelez Christophe Gardier ou pas?
Non.
Ça vous rappelle
pas?
Non.
Ah bon.
Mais si toi, tu t'en souviens, c'est
la
bien.
La deuxième tireuse, messieurs, du côté de Chelsea, Sam Kerr, l'attaquante australienne, elle s'est lancée partie au plein centre. Elle ne peut rien faire, Christian Endler. Avantage Chelsea 2.
Elle va en choper un quand même, Anthony, dit quelque chose.
Bah écoute, j'espère. J'espère. Elle en avait arrêté.
Sinon, la Ligue des Champions, c'est rien. C'est fini pour toi cette année. Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas t'ennuyer?
Bah, je vais me concentrer sur la nouvelle ère.
Il serait temps que tu termines un peu le tennis, là, parce que t'as vu, hein, ça. Après ton travail, Le Monde, Mediapart, tout le monde s'y met.
J'y travaille.
Tout le monde a suivi Anthony Reich. Allez, c'est important, penalty tir au but pour
Allez, Adai Garberg, la première ballon d'or de l'histoire du football féminin en 2018, revient tout juste sur les terrains face à Berger. En général, elle ne se loupe pas dans cet exercice. C'est parti pour Garberg, plein centre, en puissance, parfait.
Une bonne sacoche.
Voilà, exactement. 2-2. Et on remet les deux équipes à égalité. Elle va voir les supporters qui ont fait le déplacement et aussi sa gardienne, Christian Endler, pour l'encourager. Ouais, il va falloir être décisif. Christian Endler cette fois-ci face à cette troisième tireuse qui s'approche.
Oh, elle a l'air toute fébrile, elle.
Ouais, elle joue rouge, on dirait une Normande.
Elle est toute petite et toi on dirait qu'elle a pas de force.
On dirait une Normande au mois de juillet. Hein,
c'est Ingle. Ingle. Allez, attention, elle a posé son ballon Ingle. Elle
fragile.
Prend son élan. Ça va être aussi pour eux. C'est une droitière également qui s'élance face à Christian Endler. Et c'est encore une fois à côté droit dans le petit filet. Il y a rien à faire. Elle n'était pas partie du bon côté. Ouais, c'était bien tiré celui-là. Avantage Chelsea 3-2.
Moi, je pense que Mike Maignan aurait tout arrêté déjà.
Écoute, franchement, pour l'instant, ils sont plutôt bien tirés.
Ouais. Ah, la capitaine.
Parce que tu vois, juste avant, elle était toute, elle avait l'air toute petite, fragile et tout, mais elle a très bien placé la balle.
Wendy Renard.
Pas elle. Pas elle.
Ouais, en général, elle
au moment de fêter l'arrivée d'Hervé Renard.
Allez, c'est parti pour la capitaine de l'OL. Elle souffle. Elle regarde la gardienne de Chelsea. C'est arrêté par Berger. Sur la gauche, elle a plongé parfaitement.
Et avantage
Chelsea. Aïe, aïe, aïe. Le coup de massue peut-être pour l'Olympique lyonnais.
Anthony est triste parce qu'il aime beaucoup Andy Renard.
Que je n'aime pas cette course pour aller au ballon.
Elle rate quand même assez souvent, Anthony.
Que je n'aime pas cette course pour aller au ballon.
Elle avait raté lors du monde en France d'ailleurs. Exactement.
Elle a sautillé.
Je précise la performance d'Anthony Reich, qui n'est pas Stamford Bridge. On va pas tout à fait transparent. Qui travaille tout seul à l'étage, là en cabine. Donc il hurle tout seul dans un mètre
carré. Tu as le temps
entre deux pénaux. Tu peux descendre en courant. Il va te souffler.
Allez, c'est parti pour Chelsea. De Christian Lindner, et voilà messieurs, tout est relancé. Tu vois Daniel, et on a raté des pénalties. Christian Lindner,
c'est pas relancé, il faut qu'une Lindner marque hein, pour.
Oui, mais bon, moi c'est la réalité.
C'est la sœur de l'autre là, de Rhys James.
The race.
Reese James.
Qui est dans les tribunes.
Rice Krispies, tu l'as rebaptisé. Sérieusement. Reese James. Allez, c'est parti pour la Lyonnaise pour égaliser.
Allez, là, c'est là qu'il faut, y aller, faut la mettre, celle-là.
Ouais, celle-là, elle est très, très importante, là. C'est Sarah Dabritz, la milieu de terrain allemande, championne olympique qui va s'approcher de ce point de pénalty. Elle pose le ballon, elle prend du temps.
Elle a marqué, c'est elle qui a marqué.
Oui, c'est elle qui a marqué effectivement pour l'Olympique Lyonnais le deuxième but tout à l'heure dans la progression. C'est parti du gauche. Elle la touche, il me semble.
C'était
sur la gauche, mais c'est dans le petit filet. Et l'Olympique Lyonnais est toujours en vie dans ce quart de finale.
Bon, ben voilà, il faut arrêter celui-là et c'est bouclé, non?
Si t'arrêtes celui-là.
Non, pas du tout.
Pourquoi on n'est pas à 5 là? Elle l'avait dans la main.
Ah, qu'elle arrête et que la Lyonnaise marque derrière.
Ouais,
c'est ça.
Ce que je voulais dire.
Juste, voilà. Allez, c'est important.
Allez, là, il faut déjà un arrêt. Il faut commencer par un arrêt de Christian Endler, le banc de Chelsea.
Elle est chilienne,
la Navas de l'Olympique Lyonnais.
Elle est Christian Endler, elle tient pas trop en place.
La Navas d'Arménie du Costa Rica.
N'importe quoi.
Vas-y. Pas grave.
Vas-y, Anthony.
Ta connaissance du flou féminin, Nico, fait vraiment peine à voir. Je te prête.
Allez, vas-y.
Allez, attention, c'est un duel très très important là pour Christian Endler. Elle essaye de perturber la tireuse. C'est parti. C'est encore en pleine lucarne. Imparable sur sa droite. C'est encore une fois très très bien tiré. Il n'y avait rien à faire. Avantage de Chelsea, attention, cette fois-ci la Lyonnaise qui va se présenter, je ne l'ai pas encore en visu, et c'est Lindsay Horan, la championne du monde américaine, qui a été excellente ce soir encore une fois dans l'entrejeu lyonnais, vraiment un pion essentiel de cette équipe cette saison. Elle pose son ballon, Anne-Catherine Berger qui met les mains dans le dos pour l'instant, la gardienne de Chelsea. Elle est bien concentrée, elle est sur son ballon. C'est parti pour Lindsay Horan et c'est arrêté.
Bravo Stéphane, qui envoie Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions. Il n'y aura pas de représentant de club français pour cette année en demi-finale de Ligue des Champions. Merci Anthony, bravo à toi pour ce commentaire de cette séance de tir au but. Donc Stéphane Guy prend l'entière responsabilité de l'élimination de l'Olympique. Tu peux aller les voir dans le vestiaire, tu dis, c'est pour Stéphane. Ah, il a bien cramé. Merci Anthony.
Allez, bonne soirée, ciao.
Bon, je le disais tout à l'heure en sommaire de l'after, mon cher Stéphane, il faut te reprendre. Hervé Renard, donc nouveau sélectionneur.
Je ne peux plus parler, là, c'est les.
Effondré.
On est au fond du trou, là, quand même.
Bon, n'en fais pas trop non plus,
c'est
quand
terrible,
même.
Hein. Les... Bah, si,
quand même.
Tant pis, ce pénalty. Stéphane, je ne voudrais pas dire.
Ce pénalty à la 120e, là.
Il va être poursuivi par une sorte de chat noir, là. Et tu peux me ressortir un gros succès français que tu as commenté, là. Je commence à avoir un doute, là.
La finale de Lyon contre Wolfsburg en Ligue des Champions.
Personne n'avait entendu.
J'ai commenté deux victoires de Lyon en Ligue des Champions.
Là, je repense à ce qu'a dit Franck tout à l'heure, là. C'est bien revenu, là.
C'est pas
Je me demande s'il n'y a pas quelque chose, là.
J'ai commenté la victoire de Lyon à Porto. Première victoire française
française à Porto l'année dernière en Europa League, par exemple. Mais on peut en sauter des dizaines. Non, mais vous me prêtez des poires.
Stéphane, tu es le héros.
J'aimerais avoir les poires. Si j'avais le pouvoir de capter comme ça devant les écrans.
Il faut que tu saches une chose, Stéphane. Tu es le héros de mon groupe de potes, mes potos à moi. Bon. Chaque fois qu'il y a un match, ils nous la sortent. C'est pas Gijón, c'est pas Valladolid.
Eh ben, écoute, si j'en peux rendre quelques personnes heureuses dans ce pays.
C'est culte pour nous.
Ce pays. J'adorerais que tu le refasses un soir, mais j'ose pas te demander. Bon, c'est pas grave. Non, tu feras. Je savais, je te connais. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France Hervé Renard. Pourquoi, Stéphane?
Oui, alors une très bonne nouvelle, sauf que cet après-midi, enfin dans le match précédent, Khadija Tudiali, la meilleure joueuse française, s'est blessée gravement. Hein, elle va être absente un mois et demi au moins, avec une blessure à la clavicule. Donc il va démarrer son mandat sans sa meilleure joueuse, avec des Lyonnaises qui vont avoir un peu la tête sous l'eau dans les prochaines semaines. Donc c'est pas ça. Mais moi, je suis très excité effectivement de voir Hervé Renard. Je pense que c'est ce qui manquait à cette équipe de France féminine. C'est un leader charismatique, hein, quelqu'un qui nous donne envie de partager cette aventure-là. On a trop souffert les dernières années de cette équipe qui vivait en vase clos et dans une ambiance qui était d'une tristesse absolue, en effet. Et puis je suis heureux pour Hervé Renard parce que
c'était devenu un couvent.
Je trouve que
c'est choix du cœur là. Hein.
Je trouve que cet homme-là, d'abord, il avait envie. C'est lui qui s'est motivé, qui a demandé à l'être. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Qui a fait un choix sportif et pas un choix d'argent. Et puis cet homme-là, Hervé Renard, il a souffert un temps. C'est moins vrai aujourd'hui, mais il a souffert un temps dans notre pays. À mon sens, du délit de belle gueule. Il y a le délit de sale gueule, mais il y a le délit de belle gueule. Lui, il avait le délit de belle gueule et il a été pris un peu pour un clown lorsqu'il est revenu en France après sa première expérience africaine. Et je pense qu'il mérite beaucoup mieux que l'image qu'il avait là. Il aura l'occasion dans les deux ans qui viennent de nous faire rêver avec lui et avec elle.
Bah, voilà, pour le monde surtout.
Il avait même été plutôt bien à Sochaux, à Lille. Ouais, c'est vrai que c'est un.
Enfin, ça a été compliqué, hein. Les expériences en club, il est descendu avec Sochaux, il a été viré de Lille avant Noël, donc il a des expériences compliquées.
Mais
en club.
Mais il était apprécié des joueurs. Moi, je sais que les joueurs l'apprécient.
Ouais, bien sûr. Bah, c'est une belle personne, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en tout cas, je trouve, au-delà du cas Renard, c'est une belle nouvelle pour l'équipe de France féminine d'avoir ce type de d'homme à sa tête.
Et il donnera sa première liste demain. Ce sera à vivre sur RMC.
Les coups vont être un peu différentes qu'avec Coco.
C'est parti pour Survivor.
L'Afterfoot sur RMC avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Le quatrième Survivor de la saison est toujours en cours. On jouera le septième tour ce week-end. C'est un record et 5 consultants sont encore en lice côté After. Hein. Au niveau des parieurs, il y a 222 joueurs qualifiés qui doivent valider leur pari sur la page Survivor Afterfoot sur Winamax. Pour ce week-end, reste en lice parmi les membres de l'After. Gilbert Bribois, qui joue Marseille, comme Max du Standard. Marseille qui reçoit Montpellier. Thibaut Jean-Grand également. Jean-Louis Tour joue Brest face à Toulouse. Et Roland Courbis joue Lille face à Lorient. Voilà. Rendez-vous lundi, hein, pour savoir qui aura
survécu. Je rappelle qu'on m'a exclu de ce jeu parce que je gagnais trop souvent.
Non, parce que tu ne joues jamais. Tu n'es pas capable d'aller sur la page de Winamax pour valider.
S'il n'y a pas des gens assez sympas pour me faire ça.
Je rappelle que les agents n'ont absolument pas le droit de jouer.
Très bien.
Nous signons une charte et nous avons absolument.
Comme les
pas
joueurs d'ailleurs.
Comme les joueurs.
Parce que vous faites partie du microcosme, en tout cas de l'environnement, l'écosystème football. Que nous on peut, hein, je crois.
Bah, dans ces cas-là, on ne devrait pas non plus, nous aussi, on fait partie de l'écosystème.
Oui, mais ils ont des enjeux.
Si on peut avoir des délits d'initiés, si on sait qu'un tel ou machin s'est blessé, on ne devrait pas. C'est pour ça que je ne joue jamais d'ailleurs.
C'est terminé pour l'After. Merci Daniel, merci Stéphane, merci Franck Bellassen, merci Hamza également. À très vite sur RMC. Bonne soirée à tous.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.